Je dirais que la première raison, c'est une longue histoire aux États-Unis d'usage de la violence contre les Noirs américains qui remonte à l'époque de l'esclavage. C'est le message que portent les militants de Black Lives Matter. C'est l'idée que dans la société américaine, la vie d'un Noir ne vaut pas autant que la vie d'une personne qui n'est pas Noire, ce qui explique qu'il soit tué plus souvent. Il y a quelque chose de profond à la fois dans la culture, mais aussi dans les rapports sociaux aux États-Unis, et qui a aussi à voir aujourd'hui avec des inégalités persistantes qui font que une partie de la population, celle qui descend de l'histoire de l'esclavage, de l'histoire de la ségrégation, a un plus grand risque d'être victime de violences policières. Pour moi, ça s'inscrit vraiment dans une tradition, c'est-à-dire que ce n'est pas un dérapage nouveau, ce n'est pas quelque chose qui s'expliquerait par la situation des États-Unis d'aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui est dans la continuité de l'histoire longue des États-Unis.
Peut-on dire qu'il y a de plus en plus de bavures policières aux États-Unis ?
Récemment, le Washington Post a publié une étude sur le nombre de bavures policières depuis 2 ans. Leur conclusion, qui est assez pessimiste, c'est que depuis Ferguson, au moment où on avait fait des promesses de réforme, de changer les pratiques policières, de donner une meilleure formation à la police et un meilleur recrutement, éliminer les policiers violents. En fait, aujourd'hui, le nombre de personnes noires tuées par la police et plus largement le nombre de personnes tuées par la police aux États-Unis, qui dépasse le seul cas des Noirs, il est le même qu'il y a 2 ans ou 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu une tentative de pacifier un peu les relations entre la police et la population, et en particulier cette partie de la population. Et ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas changé grand-chose.
Le nombre de bavures policières, vous le disiez, est donc assez stable. Il ne diminue pas. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à tirer les leçons du racisme dans la police ?
Ce qui est compliqué aux États-Unis, c'est que comme la police est décentralisée, le ministère de la Justice n'a pas d'autorité sur les polices locales. Le ministère de la Justice fédéral peut émettre des recommandations. Dans certains cas, il peut poursuivre les policiers, mais il ne peut pas se substituer aux municipalités, aux États qui ont tous leur propre police. Si on imagine un changement culturel, en fait, des pratiques de la police, le problème, c'est la mise en œuvre. Ça voudrait dire qu'il faudrait que dans chaque service de police locale, il y ait une volonté de changer les pratiques, de former les gens, mais soit on n'en prend pas le chemin, soit ça va prendre très longtemps. Et donc ça, c'est une des grandes limites de ces tentatives de réforme de la police aux États-Unis. L'autre limite, c'est en fait une bonne partie de la population américaine soutient plutôt la police, d'autant que souvent une partie des victimes peuvent avoir un casier judiciaire. Une partie de la population américaine va justifier les actions de la police. Et ce qui montre ça de façon assez univoque, c'est que dans le cas où il y a des procès de policiers, c'est extrêmement rare que les policiers soient condamnés par les jurys populaires pour des bavures policières.
Est-ce qu'on doit craindre de nouvelles émeutes telles que celles qui ont eu lieu à Ferguson ?
Il y aura d'autres bavures, c'est certain, parce que les causes et les contextes qui font qu'elles se produisent sont toujours là et vont continuer. Il continuera à y avoir des manifestations. La manifestation d'hier à Dallas, c'est une manifestation pacifique. Là, je pense que personne ne sait comment les choses vont évoluer, parce que le fait que des gens aient tiré sur les policiers, évidemment, change profondément la situation. Et par exemple, moi, je ne sais pas s'il y avait des nouvelles manifestations, si elles seraient autorisées. Parce que là, dans le contexte où on est, il va y avoir une sorte de panique. Ce qui est sûr, c'est que la frustration des Noirs américains qui pensent que on peut aujourd'hui tuer des Noirs aux États-Unis sans être poursuivi quand on porte un uniforme, cette frustration a toutes les raisons de continuer. Il y a aussi des Noirs américains qui disent qu'il faut que les Noirs s'arment, puisque eux aussi peuvent bénéficier du droit constitutionnel à porter des armes. Le problème, c'est que ce qu'on voit aussi, c'est que ce droit constitutionnel, qui est garanti par le 2e amendement de la Constitution, son application est un peu à géométrie variable. Quand un blanc porte une arme visible, c'est perçu comme quelqu'un qui a un permis de porter une arme et qui la porte dans la rue. Quand un noir qui a un permis porte une arme visible, par beaucoup de gens, y compris par la police, ça, il y a une grande chance que ce soit interprété comme étant un criminel armé. Il y a une grande différence dans la façon dont les mêmes choses sont interprétées selon que les citoyens sont blancs ou sont noirs. Et donc si la réponse de la part des citoyens noirs était de dire « puisqu'on a le droit aux États-Unis de porter des armes, nous recommandons pour se protéger d'avoir des armes », Je pense que cette réponse, ça provoquerait une violence encore plus grande de la part de la police parce que, d'une manière consciente ou inconsciente, la première lecture qu'ils auront d'un noir armé, c'est de voir une menace.
Et comment faire en sorte que ces bavures policières, ces meurtres raciaux ne se reproduisent pas ?
Il faudrait une formation de la police à d'autres usages que la violence dans le cadre des interactions. Utiliser vraiment la violence comme dernier recours, c'est une chose qui peut donner des résultats, c'est-à-dire il faut former les policiers à la fois à l'école de police et puis ensuite au cours de leur carrière. Il faut aussi les former sur le racisme inconscient ou les biais inconscients qu'ils peuvent avoir. Parce que, en fait, beaucoup de ces policiers qui perçoivent des hommes noirs comme des menaces ne sont pas forcément conscients des stéréotypes, en fait, qui les animent, à tel point que c'est aussi le cas, par exemple, de policiers noirs, hein, qui peuvent de la même manière être auteurs de bavures. Et donc ça veut dire reconnaître qu'en fait, il y a un problème racial dans ces bavures. Et c'est quelque chose qui est dit par les journaux plutôt progressistes, par un certain nombre d'hommes politiques, par les militants. Ce n'est pas quelque chose qui fait l'objet d'un consensus. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde aux États-Unis, et en particulier du côté de la police, qui va admettre que des préjugés raciaux jouent un rôle dans la décision de tirer ou pas sur la personne qui est contrôlée. L'autre chose, au-delà des questions proprement de violence, ce serait de réduire les inégalités raciales aux États-Unis. Ça, à mon avis, c'est la seule vraie réponse de fond pour faire baisser cette violence. C'est vraiment un travail de longue haleine. Et là aussi, je doute qu'actuellement, il y ait véritablement une volonté politique aux États-Unis de prendre à bras-le-corps ce problème et de dire, ben, en fait, si on avait une égalité plus grande dans la société, c'est-à-dire si le fait d'être noir ne faisait pas qu'on était plus souvent pauvre ou plus souvent en prison ou plus souvent toxicomane ou plus souvent criminel, ben à ce moment-là, les Noirs seraient moins perçus comme une menace. Et aussi, s'il y avait moins de ségrégation résidentielle aux États-Unis, leur présence dans la rue serait plus familière pour les policiers. Ils ne seraient pas perçus comme patrouillant en territoire ennemi, comme on voyait à Ferguson.